Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International en ce mardi un peu spécial. Le retour de la petite musique et de la compétition de foot la plus suivie du moment. Retour sur les terrains de la Ligue des Champions européenne et entrée en lice du Paris Saint-Germain sur sa pelouse du Parc des Princes, un club dont les ambitions restent les mêmes, opposé cette fois à la Juventus de Turin, avant match dans cette émission. Le champion en titre, le multiple vainqueur de cette compétition, le Real Madrid, entre lui aussi dans la compétition. Ce sera en Écosse face au Celtic Glasgow, une équipe de champions qui entend le rester. Cette équipe qui a remporté déjà 14 fois la Coupe aux grandes oreilles, le pourra-t-elle ? La dernière compétition de la CAF, la prochaine plutôt, ce sera le CHAN et ça se disputera en Algérie en janvier prochain. Tous les qualifiés sont connus et cette fois ils sont 18 et non plus 16 comme la dernière fois au Cameroun. Invité pour évoquer ces sujets, eh bien évidemment notre Parisien, il est aussi malgache d'ailleurs. Bonjour Eric Rabessandratana.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Et malgache c'est important,
Oui, c'est important
puisque Madagascar va disputer et le CHAN hein, pour la première fois. C'est pour ça que je faisais allusion à ça. Quant au Paris Saint-Germain, c'est évidemment important aussi, nous allons en parler. Aussi. Bonjour Ibrahima Traoré.
Bonjour Annie.
Merci d'être de retour de vacances de notre équipe pour évoquer eh bien, cette journée particulière de reprise de la Ligue des Champions. Et puis Hervé Penaud.
Bonjour Quel Hervé. Quel plaisir d'être avec vous. En plus, je suis venu en char à voile, je peux vous dire, à une vitesse phénoménale.
Il y a du vent dehors.
Il y a du vent, beaucoup de vent.
Il y a de l'orage dans l'air aussi peut-être.
C'est possible.
Et puis notre homme de terrain du jour, il est là dans le studio avant de chausser ses crampons. Bonjour Cédric de Oliveira.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour évoquer donc ce match phare de la journée, en tout cas phare pour nous parce que ça se déroule pas très loin. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission et Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti. La belle compétition européenne revient donc dans la lumière et le tenant du titre, le Real Madrid, remet son titre en jeu dès ce soir sur une verte pelouse écossaise. La Ligue des Champions, cette saison, a cependant un parfum un peu différent. Aura-t-on pour autant une compétition différente ? Ce parfum, c'est celui d'un calendrier ramassé, un premier tour à jouer très vite, le mercato à peine refermé, les équipes à peine rodées, car il y a un mur, celui du coup d'envoi de la Coupe du Monde, et ça sera le 20 novembre prochain. 6 matchs d'ici le 2 novembre, c'est 6 matchs du groupe, une phase donc de groupe ramassée sur 9 semaines. Est-ce qu'elle est trop ramassée, Ibrahima ?
Ben non, parce qu'on n'a pas le choix, hein. Il y a une Coupe du Monde au milieu, donc il va falloir jouer.
Non, on n'a pas le choix, mais sur le temps football, est-ce que vous trouvez que c'est trop compressé ? Par rapport à la compétition, par rapport aussi au mercato qui vient de se refermer.
Non, je pense qu'en fait, la Coupe du Monde, ça va juste faire en sorte qu'on décale ce qui devrait arriver, parce qu'il y a une trêve aussi. Hein. La Champions League s'arrête pendant quasiment plus de deux mois, de décembre à février. Là, c'est juste qu'il y aura la Coupe du Monde entre-temps, que les matchs vont être dans un rythme plus élevé. Mais je pense que la donnée, elle est connue pour toutes les équipes dès le départ, donc pas forcément. Non.
Eric ? Pour vous.
Disons ce qui change par rapport à la Ligue des Champions, c'est qu'en fait, c'est toutes les semaines. C'est-à-dire que là, on n'a pas, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas le temps de
respirer.
Bah, de digérer soit un bon score ou soit un mauvais score. Il faut enchaîner direct. Alors, ce qu'aiment les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire de pouvoir se remettre en cause tous les trois jours. C'est fatigant, mais c'est aussi ce qu'il y a de beau dans le challenge et dans la performance et dans la compétition.
Oui, d'ailleurs, ils vont commencer par deux journées. Ensuite, il y aura une
pause de trois semaines.
Voilà, une pause.
C'est ça. En plus, il y a la pause internationale au milieu.
Exactement. Et après, ça recommencera. Hervé, vous trouvez que ça change un peu cette Ligue des Champions cette année ?
Ah bah ça, de toute façon, l'année va changer, hein, inévitablement. À partir du moment où vous avez des matchs tous les trois jours, on ne sait pas dans quel état physique seront les joueurs, on ne sait pas comment ils reviendront de la Coupe du Monde, parce que ça, c'est vraiment une interrogation. Mmh. C'est jamais...
Donc ça sera pour la phase éliminatoire.
Ça sera pour la phase... Mais vous savez, il n'y a pas tellement de surprises dans les premières phases. Pour moi, ça, sur le fond, ça ne va pas changer radicalement. Peut-être un groupe, il y a un groupe ou deux un peu costaud, il y aura un gros, enfin entre guillemets, qui va tomber, mais sinon on va se retrouver avec les mêmes équipes pour les huitièmes de finale, donc ça ne changera pas radicalement. Ce qu'il faut, c'est quand même avoir du banc, un minimum
c'est
de
ça.
Banc.
Moi je pense que la bonne chance, c'est pour les équipes qui ont du banc. Si
et une nouvelle fois, les grosses équipes ont du banc.
Faire tourner dans les championnats nationaux, voilà, où maintenant, en plus avec la règle des 5 changements, ça permet un petit peu d'alterner, mais c'est vrai que ces matchs de Ligue des Champions, on peut se dire... On peut plutôt craindre pour la Coupe du Monde qu'il y ait quand même quelques joueurs majeurs qui soient blessés, peut-être parce que c'est les matchs où il y a plus d'intensité, où ça nécessite beaucoup plus d'intensité physique aussi et d'être présent aussi psychologiquement. C'est peut-être pour ça, voilà, ça va peut-être avoir un impact sur la Coupe du Monde.
Que la Coupe du Monde a un impact sur la Ligue des Champions, vous dites.
Oui, voilà, parce que on voit déjà que bon, Pogba, c'est différent, on va peut-être pas faire cette Coupe du Monde, mais il y aura. Moi, je pense quelques joueurs majeurs qui vont la manquer cette Coupe du Monde à cause de la Ligue des Champions et de l'enchaînement des matchs.
Oui, mais après, ça dépend de la gestion des entraîneurs, hein, tout simplement. Tu en as parlé, c'est-à-dire bon, les championnats d'Angleterre, c'est un peu plus compliqué. Mais par exemple, le championnat de France, c'est assez simple de pouvoir reposer certaines stars. Même Messi, Neymar, oui, Mbappé, aujourd'hui, c'est facile sur un petit match.
Même ils le comprennent, apparemment.
Et apparemment, ils le comprennent. Ils le comprennent sur le papier.
Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, ils le comprennent.
Le jour où Mbappé pourra marquer 38 buts dans la saison, il dit non, je préfère jouer quand même.
Mbappé lui-même, l'a dit avec Galtier, ils ont présenté ça.
Ouais, mais ils peuvent le dire.
Ce qui peut, j'ai oublié ce que je voulais dire.
Oui, mais pourtant c'était très intéressant. C'était pour une intéressant. Fois, c'était, j'ai senti plus, que l'intervention était bonne en plus.
En plus, c'était intéressant. Oui.
En tout cas, Hervé, vous le dites tout de suite. Déjà, le dernier carré sera le même que d'habitude.
Quasiment. De toute façon, il n'y aura pas de surprise. Vous allez vous retrouver sur les quarts de finale avec à peu près les 8 équipes connues, sauf, évidemment, parce qu'avant, il y a un tirage au sort. Donc, le tirage au sort, si des équipes se rencontrent en 8e de finale, de fait, il n'y en a plus qu'une des deux. Mais sinon, vous vous retrouvez avec les gros, les Manchester City, les PSG, Real Madrid, etc. etc.
À part le groupe où il y a l'Inter, Barça et
c'est
le
tout.
Bayern.
Mais sinon, voilà.
Non, mais après, ça dépend du groupe, forcément. C'est ça que je voulais dire. C'est que, si vous faites une performance formidable sur les trois premiers matchs, vous pouvez largement gérer.
Économiser les joueurs.
Exactement, c'est plus facile.
Ibrahima, l'année dernière, on avait eu la surprise Séville. Il y a des années comme ça où il y a un club qui s'illustre et qui va un peu plus haut qu'on ne l'imaginait. Vous avez comme ça, dans l'idée, un club qui vous a intéressé et qui peut-être pourrait créer la surprise, selon vous, cette saison?
Ouais, mais comme l'a dit Hervé, ça va être difficile. On aura toujours les mêmes. Après, il y a toujours un invité surprise. Voilà. Moi, je miserais bien quand même sur peut-être l'Eintracht Francfort. Parce que c'est un club qui est
penchant
habitué.
On est étonné, on est étonné.
Non, mais pas que ça,
franchement, c'est vrai, il a raison.
Mais parce que c'est un club, en fait, qui est taillé pour les Coupes d'Europe et qui sait se sublimer dans ses matchs européens. C'est une équipe de coupe, hein, Francfort. Ouais. Ils ont gagné l'Europa League. Ils ont gagné avant, ils ont gagné la Coupe d'Allemagne contre le Bayern Munich. C'est un contexte totalement différent avec le public en plus, qui est un public exceptionnel qu'ils ont.
C'est une bonne dynamique.
C'est une équipe à suivre parce qu'on a. J'ai lu quelquefois des commentaires comme quoi on disait oui, l'Eintracht Francfort c'est assez facile ou quoi que ce soit. Et ben justement,
non,
eux
facile.
Ils savent qu'ils ne sont pas du tout favoris et ils vont se sublimer. Ce sera très compliqué, je pense, de jouer contre eux.
Et surtout, l'avantage, c'est que.
Ils ont un groupe assez abordable aussi.
Bah, c'est ça. Et puis surtout que.
Eintracht Francfort, où se retrouve Marseille.
Oui, Marseille.
C'est la saison dernière, ils finissent 13e ou 14e du championnat. Mais par contre, ils gagnent la Ligue Europa.
Ils ont complètement abandonné le championnat. Donc, parce qu'ils ont tout mis sur la Coupe d'Europe.
Quand même, ils sont arrivés au bout parce que ce n'était pas évident.
Donc, ça leur a permis de jouer la Ligue des Champions.
Eh ben, voilà, on verra si une équipe comme ça réussit à se glisser. Et donc, au Parc des Princes ce soir, un nouveau grand soir pour les Parisiens qui rêvent plus grand, c'est ça, Eric ?
C'est le slogan, oui. Hein ?
C'est le slogan. L'ambiance que ne manqueront pas de mettre les supporters qui sont fidèles au Parc des Princes. Alors, le PSG est dans un groupe où figurent aussi le Benfica Lisbonne, Maccabi Haïfa et donc la Juventus. Un Paris Saint-Germain qui commence par l'adversaire le plus redouté ou le plus redoutable. Des Parisiens qui sont dans cette compétition, ils se présentent, Eric, avec un esprit nouveau. Depuis le mois de juin, on a bien entendu la petite musique du Paris Saint-Germain, des dirigeants nouveaux, un projet centré autour de Kylian Mbappé, mais avec toujours les belles stars qu'a ce club. Est-ce que, selon vous, ça va changer la campagne européenne du Paris Saint-Germain cette saison ?
Ça doit la changer. Après, je ne sais pas si ça va la changer, mais en tout cas, au départ, ça doit la changer.
Changer des hommes, c'est ça qui changera ensuite les résultats ?
Pas forcément changer les hommes, mais changer déjà la mentalité.
Les dirigeants.
Les mentalités ont changé aussi. C'est-à-dire que là, on commence à jouer le championnat de France, alors qu'avant, on le jouait à moitié. C'est-à-dire que quand il fallait mettre 7 buts, ils en mettaient que 2 ou 3 et après, ils arrêtaient de jouer. Là, ils les jouent normalement, les matchs. Donc, ça veut dire que déjà, il y a une prise de conscience qui fait qu'on fait les choses à fond, normalement, sans vraiment calculer. Et après, il y a une bonne gestion de Galtier quand même aussi, il faut dire. Parce que voilà, on rigolait tout à l'heure pour dire qu'il sortait les stars, mais il le fait. C'est-à-dire que ce n'est pas arrivé avant. Il est dans un cadre qui est peut-être plus facile pour lui, parce que Campos lui permet de faire peut-être un petit peu le tampon avec le... Mais à partir du moment, je pense qu'à partir du moment où il y a les résultats, l'entraîneur peut tout faire. C'est pour ça que je regrette après avec les... Il y avait moins de liberté certainement pour les autres entraîneurs. Mais il n'y a pas eu de risque de prix, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de changements et choses comme ça, d'imposer des... De toute façon, à la fin, soit tu pars, soit tu te fais virer. Donc, non, mais c'est vrai, je veux dire, je trouve ça triste. Je trouve ça triste de... Tu vas partir, je prends l'exemple de Pochettino, oui, pendant un an et demi, je trouve qu'il n'a rien fait, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de risque à un moment donné de se dire, ouais, de toute façon, on va me dire que je n'aurais pas dû faire ça.
On y va.
Ben, tu fais. Mm-hmm. Et puis voilà, après, ça marche, ça ne marche pas. Mais si tu as les résultats, ça peut peut-être changer les idées aussi des dirigeants qui se disent « Ouais, faut mettre les joueurs bling-bling. » Non, faut pas mettre les joueurs bling, faut mettre les mecs qui vont gagner les matchs.
Ibrahima, quel est votre regard, vous, sur ce Paris Saint-Germain un peu nouvelle cuvée 2022 ?
Déjà, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'on se fait souvent avoir par le début de saison,
c'est
les
sûr.
Six premiers mois. Et au moment où on attend le PSG, il faut le dire véritablement, c'est en mars, avril et
On les attend, mais
et donc je vois qu'il y a un nouvel état d'esprit, évidemment, hein, il y a un nouveau projet. On voit des joueurs qui sont en forme, qui n'étaient pas à ce moment-là de la saison, aussi. Comme Neymar, comme Messi. Ils ont été touchés dans leur ego aussi, hein, ils savent qu'ils sont plus les stars principales du projet. Il y a Kylian Mbappé qui lui aussi réalise un bon début de saison. Mais moi, je ne veux pas me laisser aveugler. On sait que le PSG, c'est la meilleure équipe en Champions League dans les phases de poule. C'est un spectacle tout le temps, mais on les attend en mars, au moment où ça compte.
Justement, Cédric de Oliveira, vous avez rencontré des supporters du Paris Saint-Germain et vous leur avez posé la question dans quel état d'esprit ils sont. Alors eux, ce n'est pas des anciens joueurs, ceux que vous avez rencontrés.
C'est un peu l'état d'esprit général de ce dont vient parler à Ibrahima.
Ouais. On va les écouter justement parce que Ibrahima, ce que vous disiez me faisait écho à ce que peuvent dire ses supporters rencontrés par Cédric.
J'ai hâte, avec un petit peu de crispation, parce que le PSG, lorsqu'il y a le premier match, il faut attendre le retour pour voir le bénéfice du premier match, en fait.
Dire qu'on va gagner 3-4-0, ça serait mentir, je pense pas. Mais vu comment la forme de la Juve actuelle, je pense que avec les joueurs qu'on a et puis en ce moment comment ça joue, je pense que ça devrait le faire.
On a une attaque de feu, si tout le monde est là, tout le monde au complet, normalement ça devrait être facile pour nous, je dirais.
Je crois qu'il y a plus une recherche de cohérence d'équipe, de joueurs, que le vedettariat. Il est là le vedettariat, mais par contre je trouve qu'il est plus englobé avec une stratégie différente.
Avec Galtier, je sens que c'est beaucoup plus évolué qu'avec avec le précédent entraîneur qu'on avait. On va arrêter de dire que cette année c'est la bonne, parce qu'on l'a trop souvent dit. Là, on va voir ce que ça va donner.
Tous les supporters, je pense, ils en ont gros sur la patate. Depuis des années, on dit on va gagner, et du coup on gagne rien. On va croiser les doigts et on va voir ce qui va se passer. Mais j'y crois cette année, j'y crois.
Si c'était Rémi, il aurait un proverbe africain. Moi, je dirais Cédric, chat échaudé, craint l'eau froide, ouais. C'est ça.
Oui, c'est un petit peu ça, mais de toute façon, ça marche.
Je les trouve pas très enthousiastes, en fait, ces supporters.
Non, mais
un petit peu, effectivement,
vous avez dit le bon mot, c'est échaudé. C'est-à-dire qu'on a vu le PSG battre Manchester City l'année dernière, on a vu battre le Real Madrid, c'est arrivé en phase de poule, le Barça aussi, et notamment l'année dernière. Je me souviens un petit peu des commentaires après le match de City, c'était un petit peu bon, voilà, Paris peut gagner la Ligue des Champions, ils ont réussi à battre une équipe que, contre qui ils ont du mal d'habitude, et ben voilà, peut-être que
ils sortent en huitième de finale.
Voilà, peut-être que ce soir ça va bien se passer avec des belles performances de Messi, de Neymar, de Mbappé, et on va se dire ah là là, quand même, là il y a tout ce qu'il faut, il y a un nouvel entraîneur, il y a un nouvel état d'esprit, et effectivement. Après la Coupe du Monde, arrivé en février avec 12 points d'avance sur le deuxième en Ligue 1, bah en fait, il y aura un match compliqué en huitième de finale et ça ne va pas passer. Et voilà, les supporters parisiens, je pense qu'ils ont, ils ont assez goûté avec cette remontada, Manchester
donc,
United, le Real Madrid.
Ils observent.
Ça fait beaucoup.
Et surtout, ils se disent quand même, peut-être, sans doute, que les temps ont dû changer. Rappelons-nous d'un soir de 96.
Une louche pour rendre ce ballon à Pessotto, centre en retrait, et voilà Lombardo qui permet à la Juventus de Turin de mener 5-1. Leonardo a prolongé sur Del Piero, Del Piero,
Zidane,
Amoruso, et but. Et c'est catastrophique pour le PSG, 6-1.
C'était un beau PSG en plus à l'époque. Alors vous n'y étiez pas encore.
Non, j'étais pas là. Non, mais c'était un beau PSG, mais c'est
mais
ce match.
Rail.
Ouais, mais ce match est particulier parce que la préparation du PSG avait été faite à l'île Maurice. Et ils étaient revenus, ils faisaient moins 6 quand ils ont joué contre...
C'était après la trêve.
C'était après la trêve, ils avaient fait la préparation là-bas, ils étaient revenus, il y avait peut-être 30 degrés de différence entre le moins 6 de Paris et la température à l'île Maurice.
Et finalement, ils ont pris moins 5.
Les mecs sont revenus. Non, mais c'est vrai, les mecs sont revenus. Et en fait, quand tu regardes les buts, quand tu observes ce match et tu regardes le but, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Toutes les erreurs, le mec, il veut dégager,
alors
il dévie.
Alors là, il faut leur dire, en général, ils vont se régénérer au Qatar. Il vaudra mieux éviter, c'est ça c'est
ils,
le conseil.
Ils vont faire la Coupe du Monde déjà au Qatar. Donc,
oui, oui.
Hervé.
Ils seront régénérés pendant un mois et demi.
Hervé, les temps ont changé quand même. C'est plus ce PSG-là. Hein.
Ah oui, non,
parce
c'est
que
plus
c'était un
PSG-Juve,
hein, évidemment.
Oui,
vous l'avez
c'est, dit. C'est le dernier, d'ailleurs.
C'était la Super Coupe
d'Europe. Il y avait Zizou,
enfin. C'était la Juve avait gagné la Ligue des Champions et le PSG avait gagné la Coupe des Coupes.
Voilà, exactement. Non, mais là, c'est un contexte totalement différent. C'était une reprise d'après trêve d'hiver. Donc non, ça n'a rien à voir. C'est plus le même PSG. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, c'est une machine de guerre, quand même, ce Paris Saint-Germain. Alors, on ne sait pas ce qu'ils vont être capables de faire en Coupe d'Europe.
Oui, on a une armada.
Parce que je suis comme Ibrahima. C'est-à-dire que c'est terrible, pour parler du PSG. C'est même horrible. C'est-à-dire que... On en parle sans oser en parler, parce qu'on se dit bien sûr, ils vont se qualifier, bien sûr, ils seront en huitième de finale, bien sûr, ils vont écraser la concurrence en Ligue 1. Bon, même s'ils ne l'ont pas toujours fait, hein, ces dernières années. Mais, de manière globale, on sait ce qu'ils vont faire. Mais après, l'interrogation, elle est là. C'est le jour où vous avez un obstacle, un vrai obstacle à franchir. Est-ce que vous êtes capable, avec l'effectif que vous avez aujourd'hui, notamment à la récupération, de faire les efforts suffisants pour justement vous opposer aux grosses équipes. Mais aujourd'hui, c'est simple, la Juve. J'ai rien à dire, je ne veux pas critiquer la vieille dame. Il ne faut jamais critiquer les vieilles dames, de toute façon.
Jamais.
Et malheureusement, elle est de plus en plus vieille. C'est-à-dire rien
à dire. On va en parler de la vieille dame. Mais écoutons d'abord l'homme sur qui le club a donc parié pour l'avenir, ce cher Kylian Mbappé, qui laisse pointer la surmotivation quand même de l'équipe face à la Juve.
C'est important pour un club comme le PSG de pouvoir battre des grands noms du football comme la Juventus. Maintenant aussi, on a une campagne européenne à bien débuter, à la maison, devant nos supporters. C'est vrai que voilà, les supporters, ils attendent beaucoup cette compétition. Je pense que c'est à nous de donner une première belle copie et ensuite de pouvoir enchaîner. Donc je pense que ce match, c'est vraiment le bon moment pour essayer de vraiment lancer cette aventure européenne et continuer sur cette série de bons matchs et de victoires depuis le début de la saison.
Cédric, vous suivez le PSG et vous l'avez déjà suivi, évidemment. C'est un discours de circonstance où vous sentez quelque chose d'un peu différent par rapport à l'entrain de l'équipe, ou peut-être on sent ce début de saison un peu idyllique.
Alors un peu des deux, j'ai le droit de dire ça. Je pense que
je sais pas si vous avez le droit.
Je pense qu'un discours de circonstance, évidemment, Kylian Mbappé est extrêmement bon, était très bon en communication. Alors pas toujours ça, on y reviendra.
Souvent.
La suite de l'émission, mais c'est un discours de début de compétition, plutôt positif. En plus, il fait un message aux supporters, voilà, pour leur dire on va bien débuter. Mais c'est vrai que cette année, on a le sentiment sur quelques petits détail que, en tout cas, ça a bien débuté. Les statistiques sont là. Il y a 24 buts marqués en Ligue 1 en 6 rencontres. J'ai l'impression que les stars entre elles, ça fonctionne, ou en tout cas, c'est plutôt bien géré par Christophe Galtier malgré l'histoire des pénaltys en tout début de saison. Voilà, il y a des discours qu'on n'entendait pas. Alors après, est-ce qu'au premier accro, ça va s'effondrer ? C'est possible qu'avec une contre-performance, ça puisse râler, mais voilà, il y a peut-être quelque chose de nouveau, effectivement.
Ibrahima, ce PSG, vous le sentez différent? Alors, on parlait effectivement, il marque beaucoup de buts, et ce, depuis le Trophée des Champions. En même temps, on a vu l'autre jour face à Monaco, il y avait une certaine opposition. On osait s'opposer à ces grandes stars qui marquent des buts, et ça a moins bien marché, ça aboutit à un match nul.
Oui, moi, quand je vois ce PSG-là, oui, offensivement, évidemment, c'est brillant. Mais moi, j'ai deux grosses interrogations quand je regarde cet effectif. C'est la première, c'est le positionnement de Sergio Ramos, il faut le dire clairement, dans cette défense à trois qui, lui, joue défenseur central droit. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas un Marquinhos qui va plus vite. Et surtout qu'on sait qu'Hakimi est un joueur très offensif, donc il y aura des espaces, ça va être ciblé, hein, parce que les autres, ils font de la vidéo, ils analysent, ça va être ciblé. Est-ce que Sergio Ramos sera en capacité à haute contre des joueurs qui vont très très vite de pouvoir répéter ces efforts-là et de combler les manques défensifs d'Hakimi? Je ne suis pas sûr, donc ça m'inquiète dans un premier temps. Et le deuxième, c'est le milieu de terrain. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment le PSG n'est pas parti prendre un joueur comme Seko Fofana. Tout simplement, j'arrive pas à comprendre. Il y a un joueur qui connaît bien la Ligue 1, qui va venir, qui va faire le sale boulot. Il le fait déjà bien, qui sait faire énormément de choses. On préfère toujours prendre des profils qui sont similaires, petits. Vitinha. Donc c'est voilà, Vitinha, Soler, même s'il est un peu plus haut. Donc moi, je m'interroge sur la variabilité de ce milieu de terrain du PSG.
Eric. Ouais.
Non, mais après, pour l'histoire de Ramos, je me suis posé cette question aussi, et je pense que...
Et t'as trouvé une réponse.
Et je pense, non, mais oui, j'ai trouvé une réponse, mais pour moi, tout simplement, je pense qu'il préfère avoir Marquinhos qui va jouer un petit peu en ancien libéro des deux, là, sur le côté, c'est-à-dire faire la couverture de Ramos qu'on va mettre au duel avec un mec qui va arriver dans sa zone, plutôt que de lui demander de couvrir les deux autres qui vont être... Donc je pense que c'est plus logique dans ce côté-là, et puis aussi parce que Marquinhos va s'intégrer plus facilement au milieu de terrain pour monter, pour essayer de jouer et apporter le surnom en termes de milieu de terrain, donc en termes de défenseur central qui monte et qui participe. Donc je pense que c'est pour ça qu'il joue comme ça. Moi aussi, je préférais voir Marquinhos au duel et Ramos, mais peut-être que c'est quand même mieux dans ce sens-là.
Ce qui est étonnant, parce que je comprends tout à fait l'argument, mais on a la sensation avec le Paris Saint-Germain, Verratti descend déjà encore très bas.
Oui,
c'est-à-dire qu'il vient carrément entre les centraux. Mm-hmm. Donc finalement, le premier relanceur, c'est quasiment Verratti. Ce qui est assez étonnant,
effectivement,
exactement.
Parce que mais
la logique
que
d'un Marquinhos
vienne
sortant,
aussi loin.
Effectivement, il n'y a pas du tout besoin.
Mais non,
tu
n'as pas besoin qu'il vienne, sauf que Verratti, naturellement, il vient.
Toujours.
Alors, ça n'empêche pas, parce que c'est quand même une fixation. Son jeu est quand même une fixation pour l'adversaire, et c'est quand même très intéressant pour le Paris Saint-Germain. Mais on préférait qu'il fixe, allez, 10 mètres devant, ce serait encore mieux, parce qu'il y aurait déjà une étape de passé, et ça permettrait à Vitinha de faire la différence encore derrière.
Mais moi, contrairement à Ibrahima, juste par rapport à Fofana, moi j'aimerais bien aussi, j'aurais bien imaginé un Fofana, mais pas le même. Moi, c'est Youssouf Fofana, le joueur de Monaco, ouais. Parce que je trouve qu'il leur manque ce profil de joueur qui est vraiment des récupérateurs agressifs. Ce qui n'est pas Seko Fofana, qui est un magnifique joueur de ballon, mais un joueur qui laisse beaucoup d'espace derrière lui. C'est pour ça que d'ailleurs, à côté, à la fois, vous avez Abdoul Samed, qui est très très bon, qui est un super joueur. Vous aviez Doucouré, super joueur aussi, purement défensif, ça ne posait pas de problème de faire le sale boulot. Et là, Youssouf Fofana, moi, je trouve qu'il a cette agressivité, cette capacité. Alors, il est moins juste, évidemment, techniquement, de temps en temps, je regardais encore son dernier match avec Monaco, quelques passes qui n'arrivaient pas complètement dans les pieds. Mais en revanche, il a exactement ce profil. Parce que moi, la question que je me pose avec ce Paris Saint-Germain-là, j'ai peur qu'on n'ait aucune réponse ce soir contre la Juve, parce que c'est vraiment une vieille Juve. Mais c'est attention. Quelle est la capacité de l'équipe à jouer quand vous avez des transitions rapides contre vous pour pas être trop éloigné du ballon, quoi. La récupération de balle,
tout
simplement.
Peut-être
dans le
déficit athlétique.
Mais c'est un parti pris. En fait, tous les paris qui sont pris au milieu de terrain, notamment PSG, c'est pris au Portugal, en Espagne, et c'est jamais pris en Ligue 1. C'est un parti pris, alors qu'on pourrait l'avoir comme Youssouf Fofana, évidemment, ou un Seko Fofana. Il y a plein de joueurs en Ligue 1 qui, en fait, mais le pari, il n'y a eu qu'un seul joueur recrutant, c'est Ekitike, depuis de nombreuses années.
Oui,
donc le PSG ne cible pas
la
Ligue 1.
Et
ce qui est dommage, ce qui est vraiment très dommage.
En plus, le pire, c'est que lui, le pauvre Ekitike, on se demande pourquoi il est allé au PSG. Qu'il signe, oui, mais qu'il soit prêté derrière, il faut qu'il joue.
Après, la philosophie de Paris, dans cette optique-là, c'est d'avoir le ballon. Parce que quand tu as des joueurs comme ça, donc ça dépend comment tu te positionnes. Si dans ta tête, tu te positionnes en ayant le ballon et que tu te dis, bon, sur les fois où tu vas perdre le ballon, il faudra travailler et que ce sera peut-être... Ce sera peut-être moins dur.
Mais c'est sûr que contre des équipes qui sont
bien, capables de garder
très bien
le ballon comme toi,
type Manchester City, ça va être très compliqué après de jouer derrière.
En tout cas, on aura autant le ballon que Manchester City, c'est pas ça.
Oui, c'est sûr. Peu, ouais.
On aura un Christophe Galtier qui a 6 matchs de Ligue des Champions au compteur. Hein. C'était à l'époque où il dirigeait Lille. Et Allegri en a 94.
Ah, c'est un avion, juste Allegri, c'est un avion.
Justement, parlons-en de cette Juventus, pas très brillante dans le calcio. Elle vient en plus à peine de boucler son mercato et son effectif définitif. L'entraîneur des Bianconeri, Maximiliano Allegri, préfère, passer la balle aux Parisiens quand il s'agit de parler de favoris.
Ce sont des matchs formidables à disputer car vous affrontez des adversaires parmi les meilleurs d'Europe, dont le PSG qui est pour moi le favori numéro un. Nous devrons nous hisser à leur niveau. Disons que Messi, Neymar et Mbappé sont si forts que lorsqu'ils ont le ballon, ils peuvent toujours trouver la bonne position ou le bon espace sur le terrain. Ils sont extraordinaires à cet égard. Nous devrons être agressifs et de ne pas leur laisser la possibilité de jouer lorsqu'ils ont le ballon. Et quand nous aurons la balle, nous avons le devoir de faire de notre mieux. Et nous allons le faire.
La presse transalpine, elle, ne donne pas très cher de cette Juventus. Elle est comme vous, Hervé. Oui. À l'unanimité, c'est ce que me disait Matteo Cioffi, elle leur donne pour mission de limiter les dégâts. Mais il faut dire que la Juve, en 5 journées, c'est 2 victoires et 3 matchs nuls. Elle est plus faible que le PSG sur le papier, Cédric ?
Sur le papier, c'est exactement ça. Oui, c'est pas la Juventus triomphante de 1997, on entendait tout à l'heure. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'elle est un petit peu en perte de vitesse, notamment dans le jeu. C'est une équipe qui est plutôt attentiste, qui attend de profiter d'une erreur de l'adversaire. Ça peut arriver ce soir. Hein. On peut avoir un cas d'une Juventus qui va marquer comme ça et qui va préférer patienter derrière. Pour conserver le résultat. Et puis il y a aussi un entraîneur qui est assez critiqué par la presse, mais aussi par les supporters de la Juve, qui considèrent que il y a pas beaucoup de ça joue pas, c'est pas très flamboyant, c'est pas très enthousiasmant tout ça.
Ibrahima, cette équipe de la Juve, ça fait quelque temps qu'elle nous semble, alors je vais employer un mot un peu fort, mais décadente, dans le sens où elle arrive à peine à se qualifier en Ligue des Champions chaque année, hein, elle est quatrième ces derniers temps, et le retour de Max Allegri, qui avait pris quelques années sabbatiques, on a l'impression que finalement ça n'a pas l'effet escompté. Maintenant, c'est un peu décevant.
Oui, c'est décevant quand on voit les résultats. Ils ne jouent plus vraiment le titre. En Champions League, c'est très compliqué. On a vu, ils étaient sortis par Villarreal. Moi, je ne l'ai même pas trouvé comme une surprise ces dernières années. Ça montre vraiment. Ce qui se passe au niveau de ce club qui est immense. Mais après, le piège de ce match-là pour le PSG, moi, je pense, c'est pas de ne pas sous-estimer la Juve. Mais la Juve, même quand elle gagne, elle fait jeu égal avec ses adversaires. Donc, c'est un football très minimaliste. Et le PSG doit se servir de ça pour ne leur laisser aucune chance. Mais si elle s'attend à avoir une Juve conquérante ou quoi que ce soit... Ce ne sera pas du tout le cas, c'est le piège qui peut les attendre.
Hervé, cette équipe d'Italie, même si on la trouve moins flambante, et c'est vrai que même les joueurs, ils ont perdu Dybala, ils ont perdu des joueurs qui avaient un peu comme ça une aura, en même temps, on a l'impression que c'est une équipe, elle a un savoir-faire. Ce savoir-faire quand même de l'expérience, des années, voire d'un Bonucci, voire de gens comme ça.
Enfin, Bonucci, c'est plus le Bonucci d'il y a 5 ans. Hein, c'est qu'il y a
année après Kéline année. Mais Kéline n'est plus là.
Hein, Kéline n'est plus là, effectivement.
C'est pour ça, il se dit, je suis plus vieux maintenant.
Là, quand vous regardez la composition qui est donnée, qu'on donne aujourd'hui dans le journal, l'équipe, là, vous voyez Milik. Milik n'était même pas titulaire à Marseille. Vous vous rendez compte que le deuxième...
Ah, mais il marque un, là, par contre.
C'est vrai. Vous vous rendez compte. Le deuxième joueur qui a le plus de matchs en Ligue 1 dans cet effectif, c'est Rabiot, c'est-à-dire qu'il ne serait pas un indiscutable au Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions évidemment, après Danilo. C'est une équipe où il y a plein de joueurs qui ont 0 match, 1 match, 2 matchs de Ligue des Champions, donc l'expérience, elle n'est même pas là auprès de ces joueurs-là. Alors je veux bien que le club soit un grand club avec une histoire,
une institution,
mais ce n'est pas le club qui joue ce soir, c'est l'équipe de la Juve. Et de ce côté-là, c'est une équipe, à mon avis, qui est un peu faiblarde. D'ailleurs, leurs résultats sont à l'image de leurs joueurs. C'est-à-dire qu'ils, disait Ibrahima, ils ont du mal déjà à se qualifier pour la Ligue des Champions.
Ils ont du mal à recruter. Ils ont plus d'argent.
Ils ont un problème d'argent incroyable. D'ailleurs, ils sont obligés de récupérer Milik. Enfin, c'est quand même pas un rêve absolu.
C'est pour ça qu'ils voulaient la Super League.
Ils s'en sortent pas mal. Ouais. Mais après, je pense que la Juve, ça fait 2 ans qu'elle est.
Trois ans
qu'elle est en difficulté, qu'elle n'arrive pas à trouver la formule. Alors, on dit qu'elle est en, en transition, mais la transition risque de durer un peu parce que
pas d'argent.
Mais surtout ils se sont trompés aussi, c'est-à-dire qu'ils ont pris De Ligt à un moment donné et je trouve qu'il a pas répondu présent comme il aurait dû.
Et c'est Ronaldo,
les anciens. Bah oui, c'est ça, Ronaldo.
C'est vrai qu'ils ont fait le pari Ronaldo.
Bah ouais, les anciens.
Très très cher au club, très cher.
Et puis surtout la transition elle se fait avec Max Allegri, donc c'est là le problème.
C'est ça, c'est-à-dire comme un retour en arrière.
Si on prend Allegri, c'est pour faire du Allegri, c'est-à-dire sûrement gagner le championnat, mais ce sera jamais beau, jamais flamboyant. C'est pas une transition si on prend Max Allegri pour changer les choses à la Juve. C'est juste refaire ce qu'on sait faire.
Même en championnat, ils jouent défensif aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Oui, contre des équipes comme la Fiorentina.
Fiorentina, ils ont joué défensif toute la deuxième période.
Ouais, donc ils ont moins d'armes quand même par rapport à ce que...
C'est vrai.
Regarde, par rapport aux joueurs qu'il pouvait y avoir avant qui faisaient la différence. Aujourd'hui, c'est des joueurs.
Vlahovic,
je vais pas dire c'est joueurs moyens, c'est pas des joueurs moyens, mais c'est pas des joueurs qui sont là pour jouer les trois premières places.
Ils
ne
font pas vraiment briller, en tout cas, les Bianconeri.
Dans les buts, déjà Perrine, c'est moyen. Déjà à son âge.
En tout cas, cette saison, en plus dans les recrutements, alors manque de chance ou peut-être manque de vision, on ne sait pas, mais en tout cas, depuis le début de saison, ils font sans Paul Pogba. Paul Pogba qui, en
ça,
plus.
Ça, c'est la malchance, pour le coup.
Oui.
Il s'est blessé pendant la tournée estivale.
Mais ils l'ont acheté blessé. Il joue plus. Il joue plus depuis très longtemps. Mars avec.
Quand ils l'ont acheté, il était remis. Mais c'est après, il a fait des matchs de pré-saison. Il s'est reblessé derrière. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est fragile.
Il était fragile, alors on va dire. Et là, il avait choisi de ne pas se faire opérer du ménisque du genou droit, puisqu'il avait envie de jouer la Ligue des Champions. Finalement, il a été opéré hier soir.
C'est des problèmes, tu rajoutes
Eric,
des problèmes.
Eric, en plus, on dit 6 à 8 semaines, si on regarde les autres joueurs, 6 à 8 semaines pour se remettre. Mais son entraîneur, hier, à la conférence Cédric de Oliveira, je parle sous votre autorité, il a dit « Moi, je ne compte pas sur lui avant janvier ».
Oui, mais ça c'est normal.
Non,
mais
lui, je n'ai pas dit que c'était pas
normal. Non, mais je veux dire, lui, il pense aussi que même.
Mais pour la Juve, c'est pas terrible.
Oui, mais qu'ils disent que il en récupère en janvier, c'est parce qu'il y a la Coupe du Monde et que il a dit c'est pas mon problème. Il peut jouer la Coupe du Monde ou pas. De toute façon, moi, je l'aurais pas à disposition puisque voilà.
Mais qu'il peut jouer.
De toute façon, ça va être un peu court effectivement. J'ai l'impression que ça arrange tout le monde aussi du côté de l'équipe de France.
Je pense que ça l'arrange lui, parce qu'avec les histoires qui sont arrivées, il allait mieux peut-être qu'il se fasse opérer pour laisser passer l'orage. Et de se dire que
mais la version officielle, c'est qu'il a testé le ballon hier et que
il a senti
que c'était compliqué avec le ballon.
Et le soir même, il était opéré.
Ils ont dit bon allez, tu te fais opérer.
C'est assez étonnant comme ce changement de position alors qu'il avait déjà à l'époque le médecin de la Juve avait dit il faut se faire opérer. Il a dit pas question, il y a un mois.
Au mois d'août.
Donc tout, non pas question. Et puis là, vous faites un entraînement le matin, vous avez une petite douleur, non j'arrête, maintenant il faut que je me fasse opérer. Ça arrange tout le monde.
Il a perdu un mois.
Oui,
parce que la Juve a perdu un mois aussi.
Sans ce mois-là. Deux mois plus tard, il pouvait peut-être revenir. Et là, effectivement, il aurait pu postuler une place sur l'équipe de France. Là, ça paraît plus compliqué quand même.
Après, c'est des douleurs. Le genou, on ne sait jamais, en fait. C'est vraiment, ça dépend du joueur. Ça dépend de
et des fois, on ne revient pas aussi
et
bien.
Et des fois, on met longtemps à revenir. Ouais, on ne sait pas, en fait. C'est vraiment très personnel.
Ménisque, ligament, de toute façon, Ibrahima, en plus, finalement, on serait incapable de dire ce que vaudrait cette Juve avec ce Paul Pogba. C'est-à-dire, ce Paul Pogba, c'est un peu mystérieux. Bah, même au mois de janvier prochain, quoi.
Oui, ils l'ont pris parce qu'ils ont encore en tête ce qu'il a fait du côté de la Juve, mais il s'est passé beaucoup de temps.
Pogba, à l'époque.
Voilà, exactement, il s'est passé beaucoup de temps et beaucoup de choses. En équipe de France, on a peut-être le joueur le plus décisif, enfin le plus influent sur le jeu ou même dans le leadership. Mais en club, c'est vrai que c'est compliqué. Ça en revient encore à la stratégie du club, c'est-à-dire de réessayer des choses par le passé qui ont fonctionné, sauf que maintenant, elles ne fonctionnent plus. Le football a une autre réalité. Même ne serait-ce les entraîneurs tactiquement travaillent d'une différence.
Même le football italien.
Oui, même le football italien. On a beaucoup d'équipes joueuses maintenant en Italie qui ne sont pas là, pas minimalistes. Et la Juve, on dirait qu'elle a encore un train de retard. On fait avec du vieux pour essayer de s'en sortir ou au moins consolider la place de ce club-là.
Revenons à la conférence de presse d'hier et à cette polémique qu'il y a eu lorsque la question a été posée à Christophe Galtier de savoir pourquoi les joueurs qui étaient allés durant le week-end jusqu'à Nantes en avion n'auraient pas dû y aller en train, en TGV.
Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
Hervé, Vous pratiquez le char à voile?
Je ne pratique pas le char à voile, mais j'avais envie de lui dire arrête ton char. Parce que là, franchement, là, Christophe Galtier s'est totalement planté dans sa communication.
Oui, oui.
Parce que
erreur de communication.
Et en gros, alors, on va pas en faire non plus des tonnes et des tonnes, voilà. Mais c'est une grosse erreur de communication. On sait que c'est un sujet majeur aujourd'hui en France et dans le monde. Il n'y a pas qu'en France, heureusement, et dans le monde. Et on ne peut pas balayer comme ça d'un revers de main un sujet qui impacte autant les gens. Il aurait pu répondre tout simplement, bon, même à l'arrière,
je peux botter en touche,
moi, c'est pas mon domaine. Il faut demander à des gens, mais pas se moquer du sujet. Parce que là, ce qu'il fait, c'est en train de se moquer d'un sujet qui est majeur. Parce que là, il y a des gens qui, en France, souffrent et on leur dit, vous savez, c'est l'hiver.
En ce moment, il y a de l'inflation et l'énergie coûte de plus en plus cher, le gaz et l'essence.
Et on leur dit, peut-être que cet hiver, on va être en difficulté, il va falloir couper un peu les robinets, il va falloir faire des efforts supplémentaires. Donc, vous pouvez pas simplement dire, on prend le char à voile en se moquant. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se dire, le football, les super riches, etc.
Ah bah ça, c'est
donc,
sûr.
C'est ridicule. En revanche, après que les gens lui tombent dessus, comme si c'était le symbole de
la
destruction du monde, c'est absolument débile.
Faire quelque chose, non. Ça, c'est sûr.
Notamment la mère de Paris ou la ministre.
Oui, exactement.
Eric,
il y a beaucoup de récupération de ce côté-là. Alors, c'est une maladresse. C'est bête, en fait. C'est plus bête que méchant, simplement, dans la réflexion. La blague n'avait pas lieu d'être. La question n'était pas forcément dans le bon timing. C'est un fou rire de gamin, en fait. C'est même pas. Franchement, c'est même pas. J'ai pas envie de dire qu'il s'en fout.
C'est un gamin, de toute façon,
quoi qu'il arrive. Donc là, il réalise pas. En plus, Galtier prenant le truc à la rigolade, ça a accentué. Oui, il n'y a pas lieu de faire une polémique. Mais par contre, il faut revoir quand même la façon de répondre à cette question parce qu'elle n'est pas bonne du tout.
Ouais. Ibrahima ?
Ouais, moi, je vois ça un peu différemment. Déjà, la blague n'était pas drôle.
Déjà,
on a un problème. C'est pas drôle.
C'est très subjectif, donc, l'humour. Hein.
Donc, oui, donc ça passe mal. On a senti un malaise. Moi, ce qui me dérange...
Un avion passe, comme on dit.
Moi, ce qui me dérange, là, pour le coup, c'est vraiment... C'est une veille de match de Ligue des Champions. On n'interview pas l'homme Christophe Galtier avec ses convictions. On interview l'entraîneur du PSG. Et moi, je peux comprendre qu'il a déjà parlé une fois, il a botté en touche. Et Christophe Galtier n'a pas beaucoup d'expérience en Champions League.
Il découvre.
Et il joue contre une équipe qui est la Juve. C'est un gros rendez-vous au Parc des Princes. Il ne veut pas se louper. Peut-être qu'en tête, il ne s'attend pas à cette question-là. Ou il s'y attend, il le dit. Mais il n'a pas envie d'y répondre. Il a envie de répondre sur le terrain. On lui demande qui va jouer, comment, quelle est l'animation offensive. Et pas lui demander des sujets. Ce n'est pas le moment. Tu l'as bien dit, Eric. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le timing. Et ce n'est pas le moment de demander. On ne parle pas à l'homme Christophe Galtier. On parle à l'entraîneur qui va faire son premier match de Champions League avec son nouveau club.
Il faut quand même revoir la conf. Il n'y a pas beaucoup de questions sur le football. Il y a quand même des questions sur Pogba, sur le match en lui-même.
C'est normal.
Pas complètement, je ne suis pas d'accord.
Moi, j'étais à cette conf.
Je comprends.
S'il y a Kylian Mbappé qui est là, c'est normal de lui poser la question sur Paul Pogba.
Ça, ok.
Et voilà.
Mais après, tu parles de football.
Oui, mais après, les journalistes aussi sont là pour aborder d'autres sujets. Alors, on est tous d'accord.
Je comprends que c'est le métier.
Sur la forme, on est tous d'accord sur la forme. Cette question était tendancieuse. Je pense qu'elle était hyper piégeuse. Après, Christophe Galtier, on a souvent loué ses capacités en conférence de presse. Là, il s'est planté. On est tous d'accord là-dessus. Cette blague était mauvaise. Voilà, moi, ce qui peut me déranger, c'est surtout, il a fait une erreur. C'est derrière que, on demande aux footballeurs toujours d'être exemplaires.
Ce devoir
d'exemplarité.
Mais des fois, il le réclame, ce statut.
C'est vrai.
Mbappé, quand il fait sa campagne contre certains sponsors de l'équipe de France, sur la malbouffe et tout.
Là, l'erreur ne vient pas de Mbappé, elle vient de Galtier. Mais en tout cas, là, on lui tombe dessus. Je trouve que c'est un peu gros. Il y a quand même pas mal d'autres responsables, on va dire médiatiques.
Sa moquerie qui est pas passée.
Oui,
c'est ça. Tout simplement.
Mais
ça.
Derrière, la polémique, tout ça, beaucoup de récupération, c'est un peu.
De la part d'une ministre qui a dit n'importe quoi.
Les vilains footballeurs. Exactement. Les vilains footballeurs, comme d'habitude, renvoyés à leurs chères études.
Mais on
essaye d'expliquer, en tout cas, et de décoder ce qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Alors, vous n'allez pas prendre votre char à voile, Cédric?
Non, mais je vais y aller.
Je crois que vous allez prendre une bicyclette, ce qui est bien plus écologique encore.
Bravo. C'est 10 minutes de bicyclette.
Voilà. Et vous partez au Parc des Princes. On se retrouvera dans la deuxième édition de Radio Foot International pour parler de ce match. Merci beaucoup, Cédric.
Bon match.
Allez, on parle rapidement d'une autre affiche, celle où les champions en titre remettent leur 14e titre en jeu. Le Real Madrid en déplacement, en avion peut-être, oui quand même, au nord de l'Europe, en terre écossaise, c'est loin. Ils joueront ce soir donc contre le Celtic Glasgow, une équipe qu'on peut dire légendaire, parce que cette équipe, elle est un des deux phares d'Écosse. On connaît Celtic et on connaît Glasgow. Ils ont commencé le championnat alors à fond, eux aussi. 6 victoires en 6 matchs. Ils ont mis un 9-0 à Dundee United. Et samedi dernier, en plus, ils ont remporté le derby, le fameux de la ville, Celtic Rangers. Ils l'ont remporté 4-0. Vous avez déjà joué là-bas, Ibrahima. C'est une ambiance... comme on imagine, une belle ambiance de football un peu chaude.
Oui, une ambiance britannique, hein. Mais on le ressent même déjà dans les vestiaires, c'est des vestiaires tout petits. Le tunnel pour rentrer sur la pelouse, il est extrêmement petit, ça se bouscule limite pour rentrer, ça donne le ton. Et nous, on avait joué un match de Champions League là-bas, pour dire qu'ils ne sont pas très fans hein, de l'UEFA, parce qu'ils avaient sifflé toute l'hymne de la Champions League. Et ensuite, il y a le fameux « You never walk alone hein, », qui est un moment vraiment très, très particulier
eux
là-bas.
Eux aussi, en long pour hymne.
Voilà, il y a une certaine ferveur, et puis ça passe surtout, en plus des matchs, des affiches comme ça contre le Real Madrid, ça va passer par l'engagement, ils vont célébrer même une touche. Mais ça reste quand même le Real Madrid.
On se souvient, je crois que c'est le Barça hein, qui était allé jouer une fois là-bas aussi. Oui, exactement.
Même Lyon.
Et c'est vrai que c'est assez particulier. Alors, y aura-t-il une mauvaise surprise pour l'équipe du Real Madrid ? Alors, on se souvient que l'année dernière, eh bien, une des surprises, c'était le Sheriff Tiraspol, là, cette équipe qu'on ne connaissait pas vraiment bien et qui les avait battus. Alors d'ailleurs, c'était au Real. Benzema était assailli en arrivant. Apparemment, il y a des petits problèmes de sécurité. Le Real est-il favori de son groupe, favori de la compétition, rêve-t-il d'un 15e titre ? Écoutez Carlo Ancelotti.
L'an passé, on avait même encore moins les faveurs des pronostics. Cette fois, on en a un petit peu plus, mais cette saison, on va encore tenter de lutter jusqu'à la fin en espérant arriver en finale. On a beaucoup d'espoir, comme toujours, mais on ne se projette pas. On ne pense pour l'instant qu'à gagner notre poule et voir ce qu'il se passera après la Coupe du Monde. Car on ne sait pas dans quel état de forme vont revenir les joueurs du Qatar. Personne ne peut le prédire aujourd'hui.
Nunca se puede saber hoy.
Hervé, comment vous voyez-vous ce Real Madrid qui a effectué, on peut dire, un petit recrutement à l'intersaison ?
Il a parfaitement résumé, hein, c'est-à-dire que l'année dernière, on pensait qu'ils étaient cramés bouillis, trop vieux, milieu de terrain, qui n'avançaient plus. Ils sont champions d'Espagne.
Luka Modric disputera son 100e match, on parlait d'expérience, de Ligue des Champions. Voilà, 37 ans.
Tout est dit. 37 ans. Et on a l'impression qu'il en a 34. Et quand il en avait 34, il en avait 32. Donc c'est pareil. Il ne vieillit pas.
Mais c'est son
Benzema,
vrai âge.
Benzema, il est... oui, bien sûr. Benzema, il est de 87. Donc vous voyez, il va avoir 36 ans à la fin de la compétition. Alors, pas tout à fait.
Une équipe de grognards, alors, vous
mais, oui, c'est encore une équipe de vieux. Mais, mine de rien, qui sont capables.
Il y a des jeunes.
Il y a aussi des jeunes. Parce que Vinicius, on va le verre des
champs. Camavinga, bien sûr, déjà au milieu de terrain.
Mais il y avait Kroos, Modric qui devrait pouvoir jouer là. Alors Casemiro, le fait qu'il soit parti, ça c'est quand même un atout en moins parce que c'était vraiment des joueurs majeurs. On le voyait un peu moins, mais celui qui était capable de mettre l'agressivité, récupérer les balles, il savait exactement ce qu'il savait faire et ce qu'il ne savait ne pas faire. Donc avoir de ce type de joueur dans un registre pareil, c'est top. Tchouaméni, il a peut-être plus de potentiel technique que lui, mais il n'a pas encore prouvé à ce niveau-là, donc il va falloir aussi qu'il s'y mette. Mais il n'empêche, ça va être pour moi l'une des équipes favorites de cette Ligue des Champions.
Elle est toujours favorite de la Ligue des Champions,
Ibrahima. C'est l'équipe favorite de la Ligue des Champions. Ouais, c'est une équipe qui peut se permettre de ne pas recruter comme les autres recrutent, de la gagner. C'est une équipe qui peut se permettre d'être moins fort dans le jeu que les autres et de la gagner.
Et de continuer à gagner les matchs.
Et c'est la seule équipe qui, au début de saison, affiche clairement son intention de gagner la Ligue des Champions et qui réussit à le faire. Parce que tout le monde...
Au moins, ils osent le dire.
Oui, le PSG le fait. Maintenant, je pense qu'ils vont arrêter de le faire.
Moi,
Manchester City le fait.
Guardiola
trouve toujours des excuses. Oui, il n'y en a qu'une seule qui la gagne. Mais c'est clairement l'objectif affiché.
Mais c'est pas City. Je pense que City au-dessus. Hein. Là, sur le...
Chaque année, on y repense. Hein.
Ouais, mais là, ils ont pris Cyborg Man.
Moi aussi, ouais.
Là, ils ont le cyborg devant. Alors, si en plus, avec ça, ils n'y arrivent pas, il faut arrêter.
Allez, on fait un petit crochet par l'Afrique en cette fin d'émission. On connaît donc tous les qualifiés du CHAN. Le dernier tour au cours du week-end a vu les dernières équipes décrocher leur place. Le tournoi se jouera en Algérie du 13 janvier au 4 février. Un 7e CHAN. Alors décalé, il aurait dû avoir lieu l'an dernier, mais on sait la pandémie, tout ça. Dernier qualifié, l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Mozambique et la RDC. Et puis il y a un débutant dans ce CHAN. Eric Rabé-Sandratana, oui. L'équipe malgache. Alors, coach Rabé.
Bah, très fier, très fier. Franchement, ils ont fait un beau parcours. Donc là, ça va être un apprentissage, tout simplement. Mais on a vu l'apprentissage de la CAN qui s'est très, très bien passé du côté malgache. Donc, on va voir si ça sera la même chose à la CHAN. Mais non, il y a
le CHAN,
pardon.
C'est le championnat.
Le CHAN, donc non, franchement, une belle aventure qui va commencer. Et puis surtout, le peuple derrière qui est très heureux de pouvoir revivre des émotions comme ça.
Et qui permet en plus, souvent après, d'anticiper une sélection plus compétitive. Une sélection
A. C'est vrai,
A.
Ça donne une base de joueurs locaux qui peuvent éventuellement grandir ensemble pour la suite en sélection A, donc c'est vraiment une belle aventure en tout cas.
Ibrahima, malheureusement, il n'y aura pas le Sili.
Non, il n'y aura pas la Guinée. On a perdu contre le Sénégal. Il n'y avait rien à faire, c'est l'année du Sénégal.
Ouais, c'est ça.
Mais là, ça sera 2023, on aura changé d'année.
Ouais, mais ça fait un moment que ça dure. Là, ils ont vraiment une bonne étoile. Là, on peut rien les enlever. Malheureusement, la Guinée ne participera pas.
Ouais. Dans ce championnat, Hervé, une chose, c'est que finalement, on n'a pas 16 qualifiés comme les autres années. Là, la CAF a modifié et finalement, on a 18 qualifiés. Alors, c'était 3 selon les régions, mais il y avait 6 régions. Et donc, alors en plus de l'Algérie, évidemment, qualifiée, ça ne va pas être simple pour former les groupes, là.
Ben, on forme avec 3 groupes de 4, plus des groupes de 3. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier comme système. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est étrange. Bon, à première vue, l'Algérie est quand même aussi une équipe intéressante. Puis quand vous êtes à domicile, c'est toujours pareil, c'est un sacré atout.
Mais il y aura une petite pression encore. On connaît les émotions des Algériens. On pense à Nabil Djellit qui va être.
Nabil Djellit va être comme un. Mais vous avez aussi le Maroc qui a montré par le passé. La RDC a fait des gros éliminatoires.
Le Maroc, c'est le double tenant du titre, en plus, il faut s'en souvenir.
Et là, pour le coup, c'est vraiment une équipe costaud. Comme il n'y a pas l'Égypte, pas la Tunisie non plus, qui avait décidé de ne pas participer aux éliminatoires. Donc on va voir, c'est une belle compétition en tout cas. Moi, je n'y croyais pas tellement quand ça avait débuté. Et puis finalement, je trouve qu'elle a pris ses lettres de noblesse au fil des années. Et c'est vraiment une compétition intéressante.
Ibrahima ?
Mais il y a quand même quelque chose de dommage dans cette compétition, il faut le dire, c'est que c'est réservé qu'aux joueurs jouant dans le pays local. Ça donnerait beaucoup plus de niveau.
D'accord.
Ça donne beaucoup plus de niveau qu'un Guinéen ou qu'un Sénégalais évoluant dans les meilleurs championnats qui sont
d'Afrique.
Puis jouer la compétition, mais pour tout le monde, ça serait gagnant.
Mais il devait, à un moment, ils avaient décidé qu'ils changeraient peut-être ce système-là. Ils avaient dit, jouons en Afrique, parce que ça n'a aucun sens dans les pays.
C'est le système
le plus incroyable,
logique,
bien sûr,
qui serait de faire jouer tous les joueurs évoluant dans le continent africain.
Mais je pensais qu'à un moment, ils voulaient justement changer ça, parce qu'on s'était rendu compte que ça n'avait aucun sens.
Oui, par exemple, des pays comme le Gabon, le championnat du mal à être organisé. Comment on peut avoir une équipe nationale?
Alors qu'on peut avoir des joueurs, effectivement, qui jouent au Congo, qui jouent à RDC.
Et puis, c'est toujours les mêmes qui vont gagner. On sait que le Maroc a un meilleur championnat, l'Égypte a un meilleur championnat.
Voilà, exactement.
Donc, voilà, il y a déjà un petit avantage.
Le niveau de la compétition, c'est vrai.
Tout à fait. Et le but est là, quand même. C'est de mettre en valeur ce tournoi.
Exactement.
Donc, il y a un petit effort à faire encore.
Saluons la présence de la RDC, parce que la dernière fois, elle avait fait un beau parcours, mais avait aussi été beaucoup embêtée, on s'en souvient, Hervé, par les tests de Covid.
Ils avaient quand même 19 joueurs et 23 qui étaient positifs, ça fait beaucoup. Ça, 19.
Non, on rigole.
C'était magnifique. Franchement, il faut dire qu'au Cameroun, ça avait été une
Arrêtez
super compétition.
Les joueurs qui étaient chez eux.
Et pour tout vous dire, j'étais dans le même hôtel que les RDC.
Je m'en souviens.
C'est toi, peut-être.
Arrêtez
peut-être
votre char, Hervé. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 21h10 en temps universel. Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
Et bon match.
Session Lab.